Conversation urbaine et architecturale, Myriam Schwartz, architecte et urbaniste.
Radio-imo.fr.
Une émission présentée par Cardam, l'engagement d'un groupe innovant, un savoir-faire qui allie conseil, architecture et aménagement.
Chers auditeurs, bonjour. Je suis ravie de recevoir aujourd'hui David Abrias, directeur général en charge de l'architecture chez Cardam. Bonjour.
Bonjour Myriam.
Bonjour David.
De te voir en vrai.
Oui, en vrai, je suis très contente parce qu'on a fait les dernières émissions en sublimation d'écran, mais à un moment donné, c'est pas la vraie vie. Alors, ce confinement, déconfinement, etc., nous a obligés, nous tous, à nous poser un certain nombre de questions sur quel est le degré d'acceptabilité de la ville de demain. Alors, nous avons beaucoup parlé logement, réutilisation, réemploi, conversion, reconversion. Et puis, j'aimerais bien que nous parlions aujourd'hui de tout ce qui est industrie, l'industrie de demain. Puisqu'on est censé essayer de se libérer des pays lointains et d'être dans un esprit un peu plus vertueux. Est-ce qu'on peut accepter aujourd'hui d'avoir une industrialisation en ville ?
Alors, c'est un vrai sujet. C'est vrai qu'à l'occasion de cette crise, on s'est rendu compte que de dépendre d'une industrie qui était à plusieurs milliers de kilomètres, c'était compliqué. Il y a une transition environnementale qui va s'imposer à notre industrie et qui va venir questionner, évidemment, les mobilités, entre autres. Mais ce n'est pas le seul sujet aujourd'hui qui...
Mais la pollution, parce que en fait, la pollution, le bruit, comment fait-on pour résoudre cette équation ?
Alors, tout dépend de quelle industrie on parle. Là, tu me parles industrie lourde.
Oui,
on
voilà,
fabrique des locomotives et dans des hauts fourneaux. Alors, c'est pas que ça, l'industrie.
Ou des avionneurs, puisque...
Ou des avionneurs, mais on pourra peut-être en parler plus tard. Mais je crois que l'industrie a beaucoup évolué depuis Zola et le 19e siècle et aujourd'hui, quelque part, en train de questionner son rapport à la ville, c'est-à-dire soit les suites industrielles dont on est en train de constater qu'ils s'urbanisent ou qui s'ouvrent sur la ville ou qui génèrent des porosités, et aussi la ville qui, petit à petit, mais tu as raison, petit à petit, commence à accepter d'avoir de l'activité en ville.
Voilà, alors... c'est ça. Pas nécessairement de l'industrie lourde, mais de l'activité, de l'artisanat. En tout cas, une matière première à faire, une matière à faire à l'intérieur de la ville pour rapprocher les activités des logements.
Oui, exactement. Alors, on a un cas de figure intéressant. On a travaillé sur un bâtiment à Toulouse, ça s'appelle le B612, qui héberge l'IRT Saint-Exupéry. C'est un organisme de recherche pour l'industrie aéronautique aérospatiale. Et c'est un bâtiment incroyable qui est dans une zone à connotation aéronautique parce qu'elle est le long de la piste de historique de l'aéropostale.
Voilà, donc c'est pas en centre-ville.
Alors c'est pas en centre-ville, mais c'est un quartier, c'est une ZAC qui est en train de s'urbaniser, dans lequel les transports en commun sont en train d'arriver, où il y a un énorme programme de logements.
Donc demain, il y a des logements, il y a un tram, c'est ça?
Bon, il y a de l'activité, il y a un multiplex, il y a la fameuse halle des géants, tu sais, où on voit passer des minotaures. Donc c'est un vrai quartier qui est en train de se réaliser. Et en limite de ce quartier, on a créé ce bâtiment incroyable qui héberge dans son socle donc l'IRT, dans lequel il y a... Alors c'est pas de la fabrication, par contre il y a de la recherche très poussée. Il y a des moyens de test sur des moyens de propulsion pour des avions. Enfin, il y a des choses qui sont très, très lourdes.
Ça doit être impressionnant.
Assez impressionnant. Écoute, je t'invite à visiter si un jour tu passes. Et tu vois, tout le socle, ce sont des murs cathédrales qui font 9 mètres de haut. Et au-dessus de ça, on a mis du bureau, du cowork, des très grands jardins suspendus. Tu vois, une grande qualité des espaces. Et je trouve que ce bâtiment est intéressant dans à la fois l'interconnexion qu'il crée entre la ville et quelque part une activité, une culture industrielle. Et aussi
alors, est-ce que ça permet justement, je m'excuse de te couper, mais justement, j'ai une question qui est presque une évidence. Est-ce que ça, du coup, interpelle et ça permet d'avoir des jeunes actifs qui peut-être ne viendraient pas parce que, bon, c'est un peu loin de tout, c'est un peu loin du centre-ville. Et là, le fait qu'il y ait les bureaux, le coworking, les jardins, quelque part, ça donne une attractivité ?
Écoute, ça s'est constaté dans la réalité, parce que le bâtiment était plein bien avant d'être livré. Hein. C'est vraiment devenu le totem de la zone. Et ce que tu dirais, c'est qu'il y a un vrai sujet d'attractivité pour les industriels. Et l'industrie 4.0, elle va nécessiter des compétences très techniques. Et c'est une préoccupation que je pense tous les industriels un peu qui s'orientent vers cette automatisation ou vers cette customisation de masse, enfin tout ce qu'on verra dans le 4.0, c'est quelque chose qu'ils ont à l'esprit et il faut être capable de faire venir ces talents sur les sites. Donc il y a aussi une réflexion sur les sites.
Alors c'est-à-dire qu'il y a des robots qui sur ces sites demain, ouais. Il y a des robots, mais il y a des vrais gens et les vrais gens, pour qu'ils aient envie de venir, il faut les attirer avec autre chose que simplement un hangar avec des moteurs.
En fait, il y a toujours une place pour l'architecture dans l'industrie. Et puis progressivement, ça s'est un peu délité. Je ne sais pas si tu visites des sites industriels.
Oui, j'en visite, oui.
Et d'ailleurs, moi, j'entends souvent dire, quand on travaille sur des bâtiments industriels, souvent la première phrase de brief, c'est « Messieurs et mesdames les architectes, calmez-vous, on est là pour faire de l'efficace. »
Oui, oui, bien sûr. Pas du beau.
Et je m'inscris en faux par rapport à ça. Et l'histoire nous donne raison, puisqu'aujourd'hui...
Oui, l'industriel type Dassault, Godin, etc., qui était extrêmement fier... d'avoir une usine à l'image de... avec une image vraiment esthétique, c'est envolé.
Alors, disons qu'il était moins là. C'est sûr que l'industrie, elle est moins incarnée maintenant. Il n'y a plus ces capitaines d'industrie qui parlaient d'eux au travers de leurs infrastructures et de leurs bâtiments. Mais il y a quand même des cultures d'entreprise. Et ces cultures d'entreprise, elles se véhiculent par beaucoup de choses, et aussi par l'immobilier. Et... Je peux te donner un exemple, alors qui est un petit peu en marge de l'industrie. On a réfléchi avec plusieurs grands industriels au drame des bâtiments modulaires dans les sites industriels.
Un vrai drame, ouais.
Un vrai drame. C'est-à-dire qu'on considère que pour être plus agile, quand tu as besoin de mettre des bureaux, des ateliers, tu viens empiler des bungalows et à la fin, ça marche. Alors ça marche, sauf que c'est pas très beau. Pas très inspirant pour les gens qui travaillent là-dedans et c'est pas très confortable non plus. C'est pas très vertueux d'un point de vue énergétique.
On s'est rendu compte que ces bâtiments modulaires, c'est des caisses en tôle
et ces caisses en tôle, ça va parler à sûrement des tas de gens qui écoutent et qui se baladent dans des sites industriels. Ces caisses en tôle, elles sont là pour durer. En fait, on les met une fois et on a fait ce calcul. On s'est dit, à partir de un peu plus de 5 ans, c'est plus intéressant de faire un bâtiment que de faire des caisses en tôle. Bon. Donc on a conçu une sorte de bâtiment qui était très optimisé et qui permettait à la fois de se construire très vite. Donc on a vraiment beaucoup réfléchi
à
la modularité, une réflexion sur les portées des organisations. Et du coup, on s'est mis à remplacer ces forêts d'Algeco par ce type de bâtiment. Et on en a fait un, puis deux, puis trois. Et plus ça va, en fait, plus on fait évoluer ce bâtiment avec nos clients, en y mettant quoi ? De la qualité architecturale. Et le dernier qu'on vient de livrer, c'est un bâtiment d'entrée de site qui a une façade très travaillée, qui est alors toujours sur le même principe. Il s'est fait très très vite.
La boîte à chaussures, mais c'est la jolie boîte confortable.
C'est plus du tout une boîte à chaussures. Et dedans, tu as une qualité des espaces, tu as des espaces extérieurs. Et en fait, ce qui est intéressant dans tout ça, c'est qu'à la fin...
Et l'enveloppe aussi est travaillée ?
L'enveloppe est travaillée et on arrive à avoir un rendu d'un projet qui est extrêmement qualitatif. Et surtout, ce qu'on a réussi à fabriquer... Ce n'est pas un bâtiment de bureau en plus. Ce qu'on a réussi à fabriquer, c'est de la culture architecturale chez cet industriel. Et ça fait quoi ça, ça vient interpeller des petits sujets, mais qui peuvent être autre chose.
Je connais pas mal d'élus qui seraient tout à fait intéressés par ce type de projet. On en reparlera parce qu'aujourd'hui, là, tu me parles d'exemples qui sont plutôt sur Toulouse et la proximité, mais peut-être pas. Parce qu'on n'a pas parlé de la ville, mais aujourd'hui, en banlieue parisienne, en première ou en deuxième couronne, on a quand même vraiment cet énorme problème de kilomètres et de kilomètres de hangars qui malheureusement sont peu, voire pas du tout utilisés et qui polluent visuellement la ville et les sites et donnent à voir une image quand même assez dégradée du territoire.
Oui, et puis ils viennent aggraver nos problèmes de mobilité. C'est pour ça que moi, je crois assez fort à la capacité de réinjecter une partie de ces espaces pour venir optimiser le tissu urbain. Il y a beaucoup de zones urbaines qui, finalement, sont mal utilisées parce qu'elles ne se prêtent pas au logement, parce qu'il y a des problèmes de nuisance, etc., qui pourraient tout à fait être réinvestis utilement en partie par ça. Et puis il y a un sujet qu'on n'a pas évoqué, c'est tout ce qui va être la logistique.
Aujourd'hui, la logistique
devient un vrai sujet péri-industriel, parce que pour moi, un bâtiment logistique, c'est un bâtiment industriel autour d'un outil, avec des flux, avec des process. Et si on doute encore de la réindustrialisation de la France, je pense qu'on ne doute plus de l'explosion de la
pas,
logistique
pas toujours,
liée
pas
au,
dans
au
bon
commerce.
Sens, hein. Pas toujours dans le bon sens, puisque aujourd'hui, quand justement avant la période Covid, où on avait peut-être un petit peu moins conscience des problématiques environnementales et de la pollution du bâti ou enfin ce que pouvaient représenter les problématiques de mobilité entre le lieu de vie et le travail, on se retrouve quand même avec des territoires qui ont quelqu'un de très connu dans le e-commerce, je vais peut-être pas dire le nom, mais qui implante des centaines de milliers de mètres carrés de hangars, de boîtes à chaussures avec des camions qui arrivent, qui partent, qui arrivent, qui partent. Tout ça pour effectivement répondre aux besoins du e-commerce. Comment fait-on pour justement résoudre ce problème-là de l'activité et de la logistique nécessaire et puis de l'urbanisation et de l'esthétique et du bien vivre ensemble?
Oui, bah c'est sûr que le risque de tout ça, c'est que la boîte à chaussures que tu évoques risque de devenir un élément classique de notre paysage, comme,
voilà,
comme le clocher de la Bastide fut un temps. Et je ne suis pas sûr qu'on ait envie de ça. Et je pense qu'assez vite, on va se rendre compte qu'il va falloir réfléchir différemment, peut-être intégrer ces ensembles.
On aura déjà dégradé, non ?
Alors, on aura déjà dégradé, donc il faut y penser vite, parce que cette accélération, elle va vite. Et je pense que là, il y a aussi une nécessité de la culture d'accompagner ce mouvement, parce qu'il y a des choses qui sont acceptables, non acceptables. On discutait tout à l'heure, mais tu vas peut-être revenir sur ce sujet-là, de l'utilisation de moyens d'infrastructure existants pour faire du transport. On n'est pas obligé d'amener un camion pour faire du transport.
Bien sûr.
On a des fleuves qui traversent les villes.
Le brancher rail.
On a du rail, on a des tramways qui ne roulent pas
bien
la
sûr,
nuit,
bien
on a
sûr.
Des choses comme ça. Donc il y a aussi d'autres façons d'envisager la gestion de ces flux et la cohabitation de ces flux avec d'autres activités. Mais qui va demander un petit peu de mobilité intellectuelle.
Oui, je suis ravie qu'on en parle parce que effectivement, il y a beaucoup de locaux d'activité qui sont implantés le long de faisceaux de rails. Faisceau de rails sur lequel on ne sait pas si effectivement il y a des voies de garage, il y a des voies de gestion de flux, il y a des voies TGV. Donc ça, effectivement, il y a une, on va dire, une culture d'entreprise de la SNCF et de ses satellites qui n'est pas toujours transparente, on va dire, vis-à-vis des élus, des territoires. Et il pourrait très bien y avoir un travail conséquent et en adéquation de fait entre les industriels qui ont ce genre de locaux d'activité branchés rails et, on va dire, une analyse tout à fait factuelle de l'usage de ces rails, de savoir pourquoi on ne les utilise pas ou pourquoi on ne se penche pas sur le fait de les utiliser, puisqu'aujourd'hui, c'est plus simple de prendre un camion, d'aller d'un point à un autre. Comment fait-on pour justement introduire cette culture dans un raisonnement global de la ville bienveillante ?
Alors, bon, je travaille beaucoup avec la SNCF, donc je vais garder
une forme
de devoir de réserve. En revanche, c'est en train de bouger, parce que le corollaire de ça, c'est que les grands opérateurs type la SNCF, mais on pourrait parler
oui,
de Voies navigables de France,
bien sûr.
Ont des emprises de communication et des emprises de foncier qui sont en train de se réinventer aujourd'hui, parce que c'est des emprises de cœur de ville. Et je crois qu'ils ont bien pris conscience qu'il y avait un enjeu à coordonner ces interfaces entre quelque part un flux de transport qu'on pourrait imaginer utiliser différemment et puis une couture avec la ville qui est à côté. Mais tu as raison, tout ça va nécessiter des ajustements. Et tu vois, moi, j'ai dû travailler une époque sur un bâtiment qui enjambait une voie de chemin de fer. Il faut faire une demande 2 ans et demi à l'avance pouvoir imaginer travailler à côté d'une voie de chemin de fer. Donc on n'est pas dans les temps de réactivité qu'on évoquait tout à l'heure par rapport à la colonisation des infrastructures
Alors,
logistiques.
Alors, c'est vrai que sur la mobilité, je rejoins un peu ce que tu disais tout à l'heure. J'ai cru comprendre qu'il y avait des élus, personnes qui se projetaient dans l'idée, pourquoi pas, d'utiliser le tramway de nuit pour transporter des colis, des pièces détachées, etc. On pourrait considérer que c'est un transport comme un autre, n'est-ce pas ?
Ah ben ça, c'est une idée géniale. C'est une idée géniale. Et la sous-utilisation, je crois que c'est le problème fondamental de nos villes aujourd'hui. C'est-à-dire des solutions, il y en a beaucoup. Il faut juste changer nos façons de faire. On en a déjà parlé ici. Est-ce que c'est normal qu'on ait des bureaux qui soient vides 80% du temps ? Est-ce que c'est normal qu'on ait des parkings d'entreprises qui soient vides la nuit quand les riverains n'arrivent pas à se garer ? Et est-ce que c'est normal que les tramways s'arrêtent quand on pourrait faire du transport? Voilà. Bon, je crois que
On va pas tout résoudre aujourd'hui.
Ça me dépasse un petit peu, mais en tout cas, je pense qu'on a les événements parfois un peu douloureux qu'on a pu vivre ouvrent aussi des perspectives et vont, j'espère, nous amener à penser un peu différemment et à être capable d'interconnecter tous ces.
Alors, je sais que Cardam est très au cœur de ces problèmes et que vous avez plusieurs exemples de. Voilà, de locaux, d'activités qui sont vraiment insérés dans une ville bienveillante. Un autre petit exemple qui pourrait nous donner envie d'aller se promener du côté d'une nouvelle réalisation Cardam.
On travaille en ce moment avec Plaine-Saint-Denis sur un bâtiment qui est au bord de la 86, où on a un bâtiment qui est avec un socle d'activités qui va être très bienveillant pour le voisinage, qu'on a beaucoup travailler sur justement le respect des nuisances, essayer de limiter les flux, bien les concentrer sur des zones, et puis dans un ensemble qui est très très végétalisé avec beaucoup d'ouverture sur le ciel et la nature. Voilà, donc ça fonctionne techniquement parce qu'il faut être capable d'empiler. Voilà, il y a des sujets techniques qui sont derrière tout
oui,
ça.
Oui, c'est ça. Il y a plusieurs fonctionnalités les unes sur les autres.
Hein. C'est ça. Et tout ça, il faut l'imaginer dans une perspective temporelle. On parle beaucoup de chronotopie. Donc tout ça, ça va marcher dans des écosystèmes et dans des temps différents. Et puis, il faut que ça puisse se reconvertir. Donc, de la même manière, ces bâtiments-là vont être capables d'évoluer avec la demande qui va évoluer en fonction du tissu urbain autour. Et on parle beaucoup de la ville du quart d'heure. Je ne pense pas qu'on puisse imaginer une ville du quart d'heure où toutes les activités de fabrication, de maker, hein, comme on dit aujourd'hui en bon français, soit dans une zone artisanale ou industrielle à 15 km.
Oui, c'est ça, où il fallait prendre sa voiture pour aller travailler. Effectivement, c'est fini. Cette période-là, elle est finie.
Oui, et puis là aussi, je pense que si on se place dans une perspective temporelle un peu plus longue, la vraie nuisance en fait, qui empêche ces cohabitations entre des riverains et des gens qui travaillent avec des moyens, c'est beaucoup les transports et les flux. Il faut se mettre dans une perspective où les moteurs thermiques vont quand même progressivement être amenés à disparaître. Donc un bâtiment qu'on construit aujourd'hui, ça va prendre 10 ans, ça va prendre 15 ans, mais il y a un jour où, quand un camion passera dans la rue, ça dérangera
beaucoup
moins de monde. Donc c'est ce genre de choses qu'il faut commencer à anticiper, sans aller jusqu'à ce que tu évoquais, d'arriver à mutualiser avec beaucoup d'intelligence les différents flux qui peuvent se croiser dans ces environnements urbains.
En tout cas, ça donne l'eau à la bouche parce qu'on a quand même le sentiment que tout ça est en marche. Et je suis ravie qu'on ait pu évoquer ces sujets avec des exemples vraiment importants, intéressants, que ce soit à Toulouse, Plaine-Saint-Denis ou ailleurs, parce que c'est une partie des activités Cardam. Et merci David, vraiment très intéressant.
Merci beaucoup, à bientôt Myriam.
À bientôt.
Conversation urbaine et architecturale. Myriam Schwartz, architecte et urbaniste.
Radio-imo.fr.
Une émission présentée par Cardam, l'engagement d'un groupe innovant, un savoir-faire qui allie conseil, architecture et aménagement.